Lyon.
Ah, Lyon, la ville des canuts, des traboules, de Fourvière. Pour tout vous avouer, je pensais introduire cette émission avec une bonne blague sur les Lyonnais. Mais quelle ne fut pas ma déception après 20 minutes de recherche effrénée dans des dizaines de pages Google, c'est dire à quel point j'étais désespérée, de voir que ces pages Google n'étaient remplies que de blagues vaseuses de Stéphanois et Parisiens vénères à cause de leur dernière défaite contre notre cher et tendre Olympique Lyonnais. Franchement, j'étais déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux, sachant par exemple que Lyon est la ville de France dont les spécialités culinaires sonnent le plus comme des insultes. Andouillette, boudin, saucisson brioché. Venez à Lyon vous faire glisser une quenelle dans le bide, avec les compliments du chef, bien sûr. Avec un peu de chance, on aura d'ici quelques temps quelques blagues pédophiles grâce au cardinal Barbarin et ce cher père Bertrand Prénat. Mais bon, c'est chiant, c'est toujours l'église qui les récolte toutes. Mais, bien heureusement, même si on n'a pas de blagues sur nous, les Lyonnais, on sait rire ici. Et avec les membres de RSP, la radio de Sciences Po Lyon, on vous a concocté un programme de tout ce qu'on a préféré, ce qu'on a trouvé le plus intéressant d'humoristique ou satirique ici à Lyon, en espérant que ça vous fasse rire et réfléchir. Et on commence donc tout de suite avec Elio et une interview des plus locales.
En effet, qui dans le monde de la satire représente mieux notre chère ville que la marionnette la plus lyonnaise des marionnettes ? Guignol est un incontournable du paysage culturel lyonnais. Et Radio Sciences Po est parti rencontrer quelqu'un qui le connaît très bien. Daniel Streble tient un théâtre de marionnettes dans le bâtiment Ficelle, sur Croix-Rousse. Et dans sa famille, Guignol, c'est une tradition.
Ouais. Il a plus de 210 ans.
Oh, dis donc. Ah. 210 ans, 80 ans.
Ben, les 80 ans, c'est mon grand-père qui les a sculptés. Ah, oui. Les 80 ans, c'est mon grand-père qui les a sculptés dans les années 1925. Bon, 25, pour que j'exagère, autour des années 30.
Voilà. D'accord.
Et puis les autres viennent des vieux théâtres qui existent à Lyon. Alors ça c'est un peu les chinelles, les diables verts et rouges. Et puis là-haut, regardez, vous avez Napoléon III, François Joseph, Sissi, le maréchal Castellane, une caricature de Cyrano de Bergerac, ouais. Et Fernandel, que Fernandel a tenu dans les années 35. Ça, mais chez Guignol, Cyrano c'est lui. C'est Guignol. Et donc on lui demande pourquoi il a point de nez, pourquoi est-ce que s'il s'en sert pour garder les matelas, s'il s'en sert comme tampon, c'est tout écrit spécifiquement pour Guignol. Voilà. Et donc voilà les Guignols. Alors, 80 ans ceux-là,
hein. D'accord.
Celui-là je le tiens, j'ai 4 ans.
Ouais.
Alors, oui, c'est pour dire. Ah, oui. Mais celui de 72, vous l'envoyez plus tôt. Ça aussi, c'est mon grand-père qui l'a sculpté. Mm-hmm. Et puis celui-là, il a à peu près 120 ans. Et puis celui-là, d'accord. C'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est celui qui a tourné un film de Lucie Aubrac.
D'accord.
Il a 180 ans, comme les deux vieux moches là. Puis celui aussi. Voilà.
Et ça, par contre, ça c'est
quand
pas Guignol.
Quand vous serez à 180 ans, vous aurez plus de cheveux et vous aurez plus de chayotte. Et je suis Daniel Streble. J'ai commencé à faire des marionnettes à l'âge de 8 ans. J'ai pas fait que ça, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai pris des cours d'art dramatique avec Suzette Guillot, qui avait fait une partie de la Comédie française pendant quelques années. Puis elle ne s'est pas plus à Paris, elle est revenue à Lyon. Elle avait fondé un cours, donc je travaillais beaucoup avec elle. J'ai joué avec Marcel Noël Maréchal, j'ai joué au Célestin, mais j'ai toujours fait des marionnettes. D'accord. Et ce qui me plaît avec la marionnette, c'est le fait qu'on puisse improviser. Voilà. Comme aujourd'hui, on leur a joué la maison hantée, l'institutrice, enfin le professeur qui nous avait donné la liste des prénoms, nous avait rajouté les petites rosseries à côté. Et donc, on les taquine tous, on les branche tous les uns après les autres. Et il y en a quand même deux ou trois à la fin qui m'ont dit, qui c'est qui vous a donné ces renseignements, comment vous le savez? C'est ça qui est joli, c'est que, là, ils avaient quand même une dizaine d'années, une douzaine d'années, j'en sais rien, mais tous, c'est la même réaction. Quand on recevait le lycée Lamache, on avait la même réaction, c'était des jeunes entre 16 et 18 ans. On avait la même réaction à la fin de l'expérience. Comment vous savez ça sur nous? Voilà. D'accord. C'est ce qui me plaît, c'est que c'est interactif, Guignol. Voilà. Alors que quand j'ai joué une des dernières pièces que j'ai jouées, c'est N'écoutez pas mesdames de Sacha Guitry, il y a un metteur en scène, il y a un personnage, il faut respecter. Tandis que là, avec Guignol, vous venez à la pièce, une fois, vous venez à la même pièce 8 jours après, il y aura 5 minutes d'écart. Parce que j'aime m'amuser avec le public, voilà. Donc voilà, c'est autrement. À côté de ça, j'ai eu quand même des activités professionnelles, parce qu'il faut quand même à un certain moment aussi gagner sa vie. Et nous nous sommes installés ici en 1993. Voilà. Et comme j'ai ce patrimoine exceptionnel que mon père m'a laissé, qui était à peu près 300 marionnettes, j'en ai acquis d'autres. Mais les marionnettes les plus anciennes, je sais d'où elles viennent, parce qu'en fait, mon papa a commencé en 1929. Mon grand-père lui a sculpté des marionnettes, mais mon papa, dans les années 40 et quelques, je ne sais plus si 45, 46, a racheté à M. Mandy les marionnettes qui venaient du passage de l'Argue. Le passage de l'Argue, c'est le petit passage qui est fermé maintenant, entre la rue Édouard Herriot et la rue de la République. Il y a le grand passage et il y a un petit passage qui est perpendiculaire. Là, il y a eu un théâtre entre 1853 et 1927.
Mais quand... Que vous pourriez nous résumer vite fait, qui est Guignol, faire un petit peu sa biographie, sa vie, d'où il vient, en fait?
Guignol, vraisemblablement, c'est sûr même que c'est lui, c'est Laurent Mourguet qui l'a réimaginé. Alors, il aurait imaginé Niafron, en principe, avant. Laurent Mourguet va se marier très jeune. Laurent Mourguet, c'est à peine lire et pas écrire. Laurent Mourguet va être canu, puis après ouvrier en soie, parce qu'au départ, le métier à tisser n'existe pas. Laurent Mourguet va se marier très jeune et avoir 10 enfants. Alors j'aime bien préciser, à l'époque, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas le préservatif, il n'y avait pas la télévision. On prenait le temps comme on pouvait et on prenait les petits à champeu quand ils arrivaient. Laurent Mourguet, comme il n'y a pas du travail tous les jours, il y a des moments où il se serre la ceinture, il ne peut pas nourrir sa famille. Donc il va, un beau jour, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, devenir arracheur de dents. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas de cabinet dentaire, il n'y avait pas de produit anesthésiant. On arrachait les dents aux gens qui étaient assis par terre, sous la cadette du dortoir, et on les arrachait avec des pinces et des tenailles. Donc il va avoir un certain succès, parce qu'à ce moment-là, il va se dire, pour distraire les patients qui sont impatients d'être soulagés, il va servir de polichinelle. D'accord. Donc comme il va avoir un certain succès avec polichinelle, il va s'arrêter d'arracher des dents, il va s'installer place Morand, c'est la place Maréchal Lyautey maintenant, un petit paravent et polichinelle. D'accord. Là-dessus il y a un monsieur qui vient des Ardennes qui s'appelle Grégoire Lambert Ladré, il vient de Givet, déjà là-bas il ne veut pas sucer avec de la glace, mais arrivé à Lyon ça sera pareil, mais il va travailler avec Laurent Mourguet. Si bien comme il y a des moments où il doit trop absorber d'alcool, bon, ils vont se séparer, mais à ce moment-là Laurent Mourguet va dire ce personnage ça représentait bien le Lyonnais. Donc vraisemblablement en 1804 il va imaginer Niafron qui est le portrait, c'est pas la tête, le visage, mais c'est le portrait de Grégoire Lambert Ladré, le père Thomas. C'est un homme qui boit, mais c'est ce que j'aime bien préciser, c'est qu'il travaille à mi-temps et il boit à mi-temps. D'accord. Parce que s'il était ivre du matin au soir, il pourrait pas travailler. Or, c'est un monsieur qui est regrelord. Niafron, c'est le niafre, c'est le bouif, c'est le regrelord, d'où le tablier en cuir, c'est un cordonnier. Voilà. Il travaille le cuir, donc il peut pas être ivre tout le temps. C'est quand il va vouloir se servir de ce niafron pour amuser les gens, pour dire certaines choses, un homme alcoolique n'étant pas crédible, il va imaginer Guignol. Guignol, on ignore complètement l'origine du nom. Guignol, j'ai strabisme, qui n'a pas la chance, qui a la guigne, qui est drôle, qui est guignolant, on peut en parler des heures, on ne sait pas l'origine du nom. Mais le Guignol, c'est Laurent Mourguet. Guignol sera ouvrier en soie, plus canu. Guignol, on peut même supposer que Guignol, Laurent Mourguet, l'a situé à certains moments au port d'Ennet, puisqu'à Ennet, il y avait un port, où les bateaux arrivaient du nord, arrivaient du sud, et là, on déchargeait les colis, les caisses, mais il y avait aussi tous les ragots qu'on déchargeait. Donc Guignol, c'est une gazette. Donc ce personnage de Guignol va être créé, et Guignol, il va plaire aux gens, à tel point que Guignol, à l'époque de 1830-1840, on aura jusqu'à 13 ou 14 théâtres dits à la Guignol dans la ville de Lyon. D'accord. Certains sont très éphémères, ils vont durer 3 mois, 6 mois, mais à l'époque, déjà, il faut demander l'autorisation à la préfecture d'ouvrir un théâtre dit à la Guignol. Seulement, comme dans ces théâtres, on est virulents, certains sont même des lieux de rencontre. Il y en a même un qui était rue du Pont du Temple, où il y avait des scènes pornographiques peintes contre les murs. D'accord. Dans ces théâtres, on y trouvait des dockers, des messieurs un peu paumés, des prostituées. C'était en même temps un lieu de rencontre, et Guignol commentait son truc. Napoléon III, quand il va prendre le pouvoir, va imposer la censure.
La censure de Guignol aussi.
De Guignol, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez jouer, vous écrivez. Vous posez vos textes en préfecture, on vous dit oui, on vous dit non. D'accord. Donc vous pensez bien que si les gens écrivaient des choses contre le pouvoir, non seulement ça ne serait pas accepté, mais en plus ils risquaient de se retrouver en prison. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est Guignol va être recyclé, et Pierre Rousset sera un des précurseurs où il va écrire les pièces que je possède, de 1867, l'Africaine, de 1868, Guignol et Juliette, de 1871, Faust, et des parodies d'opéra, je dois en avoir 500, quelque chose comme ça, puisque j'ai 850 manuscrits. Et à ce moment-là, ça va être déposé en préfecture et ça sera autorisé. Ce que le pouvoir en place ne réalise pas, c'est qu'à ce moment-là, en plein milieu d'une tirade en prose ou d'une tirade en vers, si le marionnettiste a envie de s'arrêter pour balancer des boches, ils ne seront plus surveillés, ça passera très bien. D'accord. Mais en plus, ça va faire fureur. Parce que à l'époque, vous allez à l'opéra ou au Célestin, puisque les deux jouaient des opéras, Marguerite, elle meurt. Lucie de la Mermoire, elle devient folle, etc. Chez Guignol, ça se termine toujours bien. Ça se termine toujours en chanson et en rigolade, il n'y a jamais de mort à la fin. Donc les gens, et surtout les dames et même quelques messieurs, vont aller pleurer à l'opéra ou au Célestin sur la mort du héros ou de l'héroïne, mais ils viendront 8 ou 15 jours après, parce qu'à cette époque, les marionnettistes sont prolifiques au niveau d'écriture, vont venir 8 ou 15 jours après rire chez Guignol, puisque ça sera la version comique de l'opéra.
Alors le sujet de la journée de la radio, c'est la satire. Quel rapport entre Guignol et la satire?
Guignol, à l'origine, le personnage de Laurent Mourguet, c'est un humoriste. C'est un chansonnier. Seulement, justement, barré par Napoléon III, Guignol va avoir une autre vocation. Et c'est ce qui fait qu'on aura des textes. Mais à l'origine, le personnage de Laurent Mourguet, c'est un petit peu le porte-parole du peuple. C'est celui qui dit tout, qui clame tout, ce que les gens pensent, mais n'ose pas dire. Et on peut arrêter le marionnettisme, on peut pas arrêter la marionnette. Et Guignol, c'est un chansonnier à l'origine. C'est ça. Guignol, il taquine. C'est ce qu'on a fait cet après-midi encore pour les enfants. J'ai demandé à l'institutrice, enfin au professeur, cet après-midi, c'est un collège, de me donner des rosseries sur les gamins. Et ils en ont tous pris plein les dents. Parce que on veut pas dire il est adorable, il est studieux, etc. Non, il y en a un qui était ronchon, il y en a l'autre, c'était. On taquine. C'est le principe de l'humoriste qui taquine le public qui est là dans la salle. Parce que, attention, à Lyon, c'est pas le public qui interpelle Guignol, c'est Guignol qui interpelle le public. C'est pour ça que j'ai voulu, il y a 23 ans, quand j'ai ouvert ici, demander qu'on me fournisse chaque fois les prénoms des gamins. Aujourd'hui, il y avait deux dames, c'est pareil, je les ai mises en boîte. Je peux vous garantir que les étudiants, ils étaient heureux d'entendre les dames qui étaient mises en boîte. Voilà. C'est cet esprit-là, Guignol, il taquine les gens. Et quand on joue pour les adultes, on a la présentation de Guignol, on a une pièce de répertoire grivois en général, mais le corps du spectacle du milieu, c'est un impromptu qui porte sur les gens, parce qu'on nous fournit des renseignements, et les gens en prennent plein les dents. Et ce qui est assez drôle, d'ailleurs, ça fait plaisir, c'est que les gens qui sont malheureusement pas mentionnés parce qu'on n'a rien sur eux, c'est eux qui râlent en disant « on n'a rien dit sur moi ». Parce que les gens sont heureux de se faire mettre en boîte. C'est le côté chansonnier de Guignol, le côté satire. Voilà.
Est-ce que Guignol a une couleur politique ?
Ben, Guignol est forcément de gauche. Hein, je ne dirais pas d'extrême gauche.
Mais... Il a été récupéré il n'y a pas longtemps par des mouvements d'extrême droite.
Oui, parce que justement, Guignol est un personnage célèbre. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe que des gens s'approprient ce personnage. Parce que ce n'est pas du tout les idées politiques de Guignol. Guignol, il est à gauche. Alors, je dis, il peut même être à la limite un petit peu anarchique dans certaines choses, dans certains cas.
Mais quand il rosse le gendarme.
Non, justement, Guignol ne rosse pas le gendarme.
Ah bon ?
Ça ne fait pas partie de la tradition.
Ah bon ?
C'est ce que tout le monde croit. Ce n'est pas le personnage imaginé par Laurent Mourguet. Et ce qui fait qu'on peut le dire, c'est qu'on a justement les pièces de Laurent Mourguet qui n'ont jamais été écrites, puisque Laurent Mourguet ne savait pas écrire. C'est Maître Nofrio, qui était un notable de la ville de Lyon, qui se commettait en fréquentant ces lieux mal fréquentés et qui nous a retranscrit les pièces de Guignol. C'est comme ça. C'est certainement à 80%, c'est le texte de Maître Nofrio, mais le sujet, le truc de la pièce, c'est Laurent Mourguet. Donc on connaît le caractère de Guignol. Voilà.
Et donc pourquoi vous dites qu'il est de gauche ?
Ah, parce que Guignol, c'est le porte-parole du peuple. D'accord. Donc forcément, il est à gauche. Il est Guignol, c'est bien le français actuel, il n'est jamais content.
Est-ce que Guignol a un iPhone ?
Mais Guignol, il a tout ce qu'il faut.
D'accord.
Si, dans la pièce précédente, il sortait son téléphone portable pour téléphoner à Niafron.
Ah oui, vraiment ?
Dans la maison hantée, une pièce qui date après la Révolution, Guignol va dire à un moment donné, il va dire au public, vous avez arrêté votre portable parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. C'est ça, il faut que Guignol vive à son époque. Oui. Même dans des pièces qui ont 100 et quelques années, il faut que Guignol reste en 2016, en 2017. Guignol, il vit avec son temps. Voilà.
Mais par contre,
je prends un exemple tout bête, ça n'a rien à voir. Mais quand même, dans le petit chaperon rouge n'a pas le chaperon du chaperon rouge, il a une casquette rouge, une salopette rouge. Il va chez sa grand-mère en relore. Guignol le suit en patin roulette. Et quand le loup, il découvre la penderie de la grand-mère, qui est relativement moderne et clinquante comme garde-robe, le loup va dire, mais c'est une mamie cougar. Il faut absolument, voilà, que les enfants, ça leur passe par-dessus la tête, mais il faut que les adultes, ça les fasse rire, voilà.
Parce que c'est aussi pour les adultes, ça.
Bien sûr, mais Guignol, il a vécu 150 ans en étant joué pour les adultes. Même dans les années 1920-1930, quand on jouait des pièces pour les enfants, c'était le répertoire adulte qu'on ramenait au niveau des enfants. Si bien que moi, je vais sur mes 72 ans, bon, bah, j'ai vu ces pièces au Théâtre Mourguet, on était ébahis par la mise en scène, par le spectacle et tout, mais le texte, il nous passait complètement par-dessus la tête. Parce que le texte, à 90%, il était pour les adultes. Et c'est mon papa et M. Chervin qui, vraiment, dans les années 1945-1950, pour faire ce que l'on fait maintenant, les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires, écrire des histoires spécifiquement pour Guignol, mais qui sont à la portée des enfants, avec une morale. Dans la pièce précédente, par exemple, la fille de Guignol suivait un putois, qui est un petit putois vicieux, qui l'emmenait dans un souterrain pour qu'elle serve de domestique à un magicien. Donc, la fin de la pièce se terminait en disant, ben, faut pas écouter n'importe qui, faut pas suivre n'importe qui dans la rue. Il y a toujours, laissez toujours se faire passer un petit message moral. Un petit message en disant aux enfants, faites attention, il y a toujours des petites choses, voilà. Il y a un petit côté pédagogique, voilà.
Et c'est sur ces paroles que nous quittons le petit monde de Guignol. Penchons-nous maintenant avec Gaëlle sur une autre particularité de la culture lyonnaise.
Eh oui, j'aimerais en effet enchaîner notre émission sur l'humour et la satire lyonnaise par un billet sur un autre étrange personnage que j'ai découvert au détour des chemins il y a un an, au milieu du chaleureux festival de Chalon-sur-Saône, un festival de théâtre de rue. Quel rapport avec Lyon, me demanderez-vous ? Mais était présent, et vous le connaissez peut-être déjà, le crieur public de la Croix-Rousse. Il a malheureusement cessé son activité il y a 5 ans, mais on peut tout de même le voir crier de temps en temps à des festivals, par exemple, quand ça lui chante, en fait. Son nom, c'est Gérald Rigaud, et son idée, son pari réussi, était de remettre au goût du jour la vieille tradition de la criée publique. Il s'installe tranquillement derrière son pupitre, avec son fameux képi, et il commence à parler. Il lit pendant la majeure partie de sa criée des billets qui ont été déposés dans son chapeau ou qui lui ont été envoyés, mais il n'hésite jamais à ajouter des remarques. Le but de chaque criée, en tout cas celui que j'ai saisi, est de faire parler et de rapprocher des gens. En effet, lorsqu'on lui demande à son départ ce qu'il retiendra de son expérience en tant que crieur public de la Croix-Rousse, voici sa réponse.
Ce que je retiendrai, c'est que l'indifférence générale et généralisée peut être parfois ébréchée et qu'on peut encore se parler dans l'espace public et toucher les gens et vivre des vrais moments.
Pour moi, il résume là tout son travail. Cette indifférence, il la combat en poussant à la discussion, mais aussi en n'ayant pas peur de critiquer, de pousser à réfléchir en plus des messages qu'il lit, avec par exemple des tirades hilarantes anti-Gérard Collomb ou des conseils sur la scène culturelle alternative de Lyon. Le crieur public de la Croix-Rousse, redevenu Gérald Rigaud après 7 ans de bons et loyaux services, est un pousseur d'idées, un humoriste, un satire-né qui sait faire vibrer la ville de Lyon. Aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver ces visites d'idées décalées, qui sont des visites folles de la Croix-Rousse, ou bien aller jeter un coup d'œil à son site ministèredesrapportshumains.com. Aujourd'hui, quelques Lyonnais ont repris son idée et font leur propre crier chaque semaine, généralement plutôt quand le temps est favorable. Mais ceci fonctionne plutôt par le bouche à oreille. J'espère en tout cas que si vous en croisez un ou une au détour des rues lyonnaises un jour, que vous penserez à Gérald Rigaud et que vous tenterez en son honneur de briser l'indifférence générale. Je laisse à présent la parole à Thomas, qui va nous parler d'un autre Lyonnais hors du commun, d'un tout autre genre.
Oui, alors en effet, je vais vous parler d'Alexandre Astier, qui est d'origine lyonnaise. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Alexandre Astier, c'est celui qui joue le roi Arthur dans la série Kaamelott. Mais je vais moins parler aujourd'hui du côté comédien que du côté musicien, quoique les deux soient évidemment liés. Car cette figure de roi désabusé et grognon cache en fait un musicien de formation, puisqu'il a suivi des études de musique dès 6 ans au Conservatoire de Lyon, puis au Conservatoire de Paris. Cette formation au Conservatoire et sa passion pour la musique, il aime la partager et ça s'entend. Déjà quand il monte un spectacle entier sur la vie de Jean-Sébastien Bach, Que ma joie demeure, en 2012, où il imagine de façon humoristique la vie quotidienne de ce titan de la musique classique. On écoute tout de suite un rapide extrait d'un de ses sketchs.
Alors, l'oreille absolue, tu l'as pas? Il sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça? Do, tu l'as pas. Ça, déjà de ce point de vue-là, t'es tranquille. Ensuite, là, aidez-vous les autres. La ferme. Alors là, on a affaire à une montée d'escalier, non, diatonique. Là, une descente d'escalier, non plus, chromatique. Ensuite, ça, cet enchaînement d'accords, là, 2-5, 2-5, ça s'appelle une marche d'escalier, toujours pas, donc harmonique. Dans une fugue, le premier truc qu'on expose, c'est le, on l'a dit tout à l'heure, le, il sait pas, le sujet. Ensuite, quand on reprend le sujet à la carte au-dessus, ensuite, ça s'appelle le... La réponse, bon, il sait pas. Très bien, donc bien. Bilan de l'évaluation, donc, je te garde. Pour une raison extrêmement simple, je n'ai absolument pas les moyens de m'asseoir sur du pognon en ce moment.
Comme quoi, écouter et pratiquer la musique dite classique, ce n'est pas un truc de vieux. Ce côté un peu érudit, donc, on le retrouve dans la plupart de ses productions, et notamment la plus grande, Kaamelott. Kaamelott, c'est 6 saisons et 459 épisodes au total, une comédie décalée dans le monde légendaire arthurien et des chevaliers de la Table Ronde, livrés et non sans peine à la quête du Graal. Alors j'ai retenu deux épisodes seulement que je trouve particulièrement révélateurs du travail d'Alexandre Astier, La Quinte Juste et Pupi. Dans le premier, La Quinte Juste, on voit le père Blaise s'offusquer des harmonies qu'il peut entendre dans la rue. On écoute un extrait tout de suite.
Bohort, une basse s'il vous plaît.
Oh.
Oui, parfait. Donc, sire, vous allez chanter la même note que Bohort.
Oh.
Très bien. C'est ce qu'on appelle un...
unisson.
Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure.
Oh.
Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte.
Oh.
Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Unisson, carte, quinte, et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est de la merde.
L'unisson, la carte et la quinte, en effet, les seuls accords de notes qu'on tolérait dans la musique sacrée au Moyen-Âge, l'accord terrible étant le triton, un accord de quinte diminuée ou de quarte augmentée, surnommé l'accord du diable tant il est dissonant, ce qui amène d'ailleurs le père Blaise à s'écrier « Diabolus » quand il l'entendra après. Dans le second épisode, épisode nommé Pupi, il fait référence au théâtre des marionnettes siciliens Opera dei Pupi, une forme théâtrale dont les personnages sont les chevaliers représentés par des marionnettes, qui sont donc les pupilles, épisode pour laquelle d'ailleurs il a écrit une très jolie musique, qu'on écoute dans une version jouée par Astier lui-même au piano.
Thank you.
Voilà, Astier sait faire rire, il sait aussi émouvoir, comme quoi parler de solfège, de théâtre, ce n'est pas forcément un truc de vieux. Pour conclure, je signale qu'Alexandre Astier prépare la suite et la fin de Kaamelott, qui sera sous forme de trilogie sur grand écran. On a hâte.
Bien, merci beaucoup Thomas pour cette billet sur Alexandre Astier. En effet, on a hâte. Alors, pour terminer, nous allons vous présenter quelque chose d'un peu particulier. Cette année, Radio Sciences Po a préparé en collaboration avec l'association de théâtre de l'IEP, SPOTS, une fiction radiophonique. Elle parodie le monde des scénaristes et de la production de la télévision. Nous suivons les quatre scénaristes de la série Emma, qui a eu une récente chute d'audience. Je ne vous en dis pas plus. En voici les 8 premières minutes.
Emma se rebiffe, une fiction radiophonique originale réalisée par RSP et Spot.
Ça va ton week-end, Joséphine ?
Ouais, tranquille, tranquille. Et toi ?
Bon, très calme. Et j'en avais besoin, quoi. La semaine dernière m'a tué. Bon, Raoul, Joe, on s'y met ? Alors, on en était où déjà ? Hector, t'as le résumé arrangé là du dernier épisode ?
Ouais, attends, laisse-moi retrouver ça. Voilà.
Putain, t'es paumé comme mec, toi.
Ouais, mais bon, ok, là, c'est pas la bonne version. deux secondes. Attends, je cherche. Voilà. Ouais, ok. Previously.
Oh, tu me saoules à faire ça à chaque fois.
Ah, ok, bon. Previously on Emma. Emma rentra chez elle en marchant pour profiter de la douce atmosphère printanière qui embaumait la nuit tendre.
Ah, la nuit tendre, ça c'est Fred.
Ah, mais chut, ça va, on se concentre là. Je peux lire.
Tranquille.
Vas-y.
Ouais, vas-y.
Merci. Emma venait de quitter Paul, son nouvel amant. Paul partait le lendemain en voyage d'affaires en Amérique latine pour 2 semaines. Elle se réjouissait de passer la soirée à méditer seule chez elle sur son amour naissant. C'était les débuts, le délire sublime des commencements, pensait-elle en se souvenant de Ben, du Seigneur qu'elle avait relu récemment. La pétillance des possibles l'enivrait plus que le vin qu'ils avaient partagé. Elle avait encore le goût de ses lèvres en bouche et le souvenir de ses caresses sur sa peau vibrante. Pas mal pour son âge. On a droit à combien de doigts au départ ? Alors qu'elle avançait d'un pas lent, perdue dans ses sensations, elle remarqua 3 hommes qui semblaient la suivre. Ils raclaient leurs pieds sur le sol et faisaient un vacarme qui la déconcentra. Pensant psychoter, comme à son habitude, elle décida néanmoins de presser le pas et bifurqua dans une rue peu familière pour voir s'il la suivrait. Regardant derrière son épaule, elle vit qu'il s'y engageait aussi. La panique monta en elle. Elle se mit à courir. Courir jusqu'à en perdre le souffle. L'adrénaline se mélangeait à des souvenirs douloureux, des agressions passées, et cette nuit qu'elle n'osait pas appeler un viol. Elle pensait avoir digéré ces moments, et voilà qu'elle était submergée à la fois par sa mémoire et ces 3 hommes qui la poursuivaient dans la nuit. Elle se retrouva au fond d'un cul-de-sac. Elle se retourna et vit le premier homme défaire sa ceinture, avec un rictus imprimé sur les lèvres. Il avait les dents très blanches, pensa-t-elle, avant que le second arrache sa robe d'un geste si violent qu'il l'envoya s'éclater sur le bitume sale. Ses genoux commencèrent à saigner. Ce furent les premières taches rouges qu'on voyait luire, même dans l'obscurité.
Qui a eu cette idée ? Enfin, c'est dur quand même, la pauvre, elle commençait à peine à se reconstruire. Hein.
Je sais plus, mais... On s'était mis d'accord, c'est vrai que c'est trash, mais on avait besoin d'un viol pour renouveler la trame. Vous vous souvenez pas, c'était la prod qui l'avait exigé. Vous avez fait une étude des audiences, trucs statistiques, et c'est, paraît-il, le genre d'action qui
quand même, avoir. Enfin là, je suis d'accord avec Fred, un viol en gangbang, c'est abusé, pleine nuit, ruelle sombre.
Genre le cul-de-sac du viol et tout.
C'est pas très Charlie, non ?
Ouais, bon, c'est pas très Charlie, mais bon, c'est trop tard. On l'a envoyé, ils l'ont tourné, et ils le diffusent demain.
C'est chiant quand même de jamais pouvoir visionner les épisodes avant qu'ils sortent à la télé. Ouais, on est scénariste, hein. T'as qu'à bosser à la production, allez, tu pourras tout voir. Surtout la petite stagiaire là qui chine dès que tu veux. Hein.
Allez. Oh les gars. Bon, on en fait quoi maintenant des mages? Faut leur filer la première ébauche dans deux jours.
Madame, messieurs, il est temps. Il est temps pour moi de partir. Cette lettre sera le dernier témoignage de mon refus et sera pour moi le début d'une nouvelle vie. Nous avions travaillé ensemble pendant des années, presque une vie entière. Croyez-moi quand je vous dis que je comprends profondément l'intérêt que vous avez pour votre travail. Mais est-ce une raison pour profiter de moi ainsi? Votre attachement à ce travail est-il suffisant pour m'exploiter comme vous l'avez fait? Du travail heureux, il ne m'est rien resté. Des horaires terribles et jamais de temps mort. Des conditions de vie déplorables. Toujours à vivre dans l'urgence. L'urgence de proposer quelque chose de suffisamment bon pour que vous gardiez votre position. Et puis la nouvelle saison arrive. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce qui arrive. Un viol. Mon viol. Un viol pour mieux vendre. Pour redynamiser. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Vous n'êtes que les pantins médiocres des producteurs pour accepter de faire passer votre héroïne par le pire des supplices, pour attirer de l'audience. C'est inacceptable. C'est inacceptable de sacrifier une vie, la mienne, pour quelque chose d'aussi trivial qu'un poste dans une entreprise minable. La vie, ce n'est pas ça. C'est grotesque de penser que de travailler des dizaines d'heures par jour est le sens de la vie. Plus jamais je ne serai la bonne à tout faire d'une bande de paresseux en manque d'inspiration, le pantin débile de vos histoires dégénérées. La vie a plus à offrir que ce que vous m'avez présenté. Vous m'avez fait prononcer des phrases existentielles, mais jamais vous n'avez pris conscience de votre propre existence. Je ne serai plus votre miroir. Je serai libre.
Hier pour ces raisons, je vous plaignais. Aujourd'hui, je vous quitte. Le sens de ma vie est ailleurs. Vous ne m'utiliserez plus jamais. Je quitte vos projets. Je m'en vais, je rejoins votre monde. Mais contrairement à vous, je compte bien y vivre. Signé Emma.
Attends, enfin, fais voir. Ah non mais, je crois pas.
Apparemment, Emma est partie.
Non mais, qui a bien pu faire ça? Écoute, non, mais c'est passionné ou...
Genre Emma?
Ouais, bah écoute, j'ai trouvé ça ce matin sur le paillasson, enfin c'est un problème.
C'est quelqu'un complètement con, quoi.
Bah ouais, enfin regarde, c'est son écriture quand même étirée mais épaisse, c'est exactement comme on se l'était imaginé, tu sais, enfin... Regarde,
plus vrai que nature.
C'est bien fait.
Putain, c'est incroyable l'écriture, c'est la même que la description.
Et t'as vu, j'ai cru à un moment que c'était l'un de vous qui l'aviez fait.
Attends, montre-moi ça.
Tiens, vas-y, regarde.
Ah, c'est vrai que c'est pas mal fichu, mais est-ce que c'est pas un peu trop sérieux pour notre Emma? Putain, mais elle est au taquet la meuf, hein. Plus vrai que nature, hein. De l'authentique.
Mais attends, elle écrit quoi? Le sens de ma vie est ailleurs. Non mais vas-y, c'est quoi ces conneries?
Ça continue, hein. Des conditions de vie déplorables, carrément. Hein. Un viol pour mieux vendre, pour redynamiser. Mais ce qu'il faut pas entendre.
Oh, on pourrait mettre le texte sur la fanpage. Les gens vont adorer. Et vous savez, en titre on met « Et si notre personnage avait été écrit par Camus ?»
Vas-y, trop bien, vas-y. Puis on fait un concours de réécriture et tout, là, ça va.
Et puis ça fera parler de nous. En ce moment, on aurait bien besoin de ça. Ouais. Un peu de pub.
Ouais, mais je vais voir la directrice demain, je vais lui montrer ça.
Parfait.
Je pense que ça va lui plaire, vu qu'elle trouvait que la trame se répétait, qu'on s'enlisait, puis que... Enfin, qu'on se faisait chier, quoi.
Merci à Thomas, ici présent, que vous avez peut-être reconnu pendant cette fiction radiophonique, qui a écrit cette fiction avec Hélène, Thibault et Mayol de Spots, que l'on remercie aussi.
Coucou Mayol.
Pour écouter la suite du programme, rendez-vous sur notre site rspedion.fr. Nous avons donc pu faire un tour d'horizon de Lyon à la sauce Radio Sciences Po. C'est tout pour nous aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et nous rendons la parole à Transistor, que l'on remercie tout autant de nous avoir accueillis si chaleureusement pour Il était une science.
Eh bien, merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir et on ne manquera pas d'aller écouter la suite de cette fiction. Je vous encourage, chers auditeurs, à y aller. Alors Rigole, vous l'avez dit, c'est déjà fini. Encore une fois, merci à vous, car c'est bientôt l'heure d'Il était une science, dans quelques minutes. Il est 10h, 10h01 même sur Transistor, c'est l'heure du flash info assuré par Céline. Rebonjour Céline.
Rebonjour Clément, bonjour à tous. manifs, sinon rien. C'est le bilan de la journée de manifestation d'hier dans toute la France, à l'appel de 7 syndicats et d'organisations étudiantes. Entre 400 000 et 1,2 million de manifestants, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur et ceux des syndicats. Mais une certitude des deux côtés, la mobilisation a doublé depuis la dernière journée de manifestation, le 9 mars. Les derniers manifestants ont été dispersés à 6 heures ce matin à Paris. Mais hier, les différents cortèges n'étaient pas encore dispersés que Force ouvrière et la CGT annonçaient deux nouvelles journées de mobilisation les 5 et 9 avril prochains. Des soldats français à nouveau accusés de violences sexuelles en République démocratique du Congo. À l'appui de ces accusations, l'ONU présente des dizaines de témoignages contre des soldats de la mission Sangaris et aussi des soldats burundais. Les faits dont ils sont accusés auraient été commis entre 2013 et 2015 et ils sont particulièrement odieux. Ces accusations qui s'ajoutent à bien d'autres laissent suspecter d'autres faits d'ampleur. S'ils étaient avérés, pour le représentant de la France à l'ONU, des sanctions disciplinaires exemplaires seraient énoncées. Une info de dernière minute qui nous est parvenue ce matin. La Corée du Nord a, semble-t-il, procédé à un tir de missile sur sa côte orientale en mer du Japon. C'est une agence de presse sud-coréenne qui rapporte l'information, sans pour autant plus de précision sur la nature ou le but de ce tir, qui intervient dans un contexte déjà très tendu depuis le quatrième tir de missile nucléaire de Pyongyang le 6 janvier dernier. Et c'est aussi dans ce contexte que se déroule en ce moment le sommet sur la sécurité nucléaire à Washington, où François Hollande a rencontré Barack Obama. Ce n'était pas pourtant la Corée du Nord, mais l'État islamique qui était au centre des discussions. Un constat, Daesh recule en Syrie grâce aux frappes de la coalition, alors même que la ville de Palmyre a été libérée il y a 5 jours par les forces syriennes pro-régime. Washington s'est aussi dit horrifié par des frappes du régime syrien contre un hôpital et une école dans la région de Damas hier, qui ont fait 12 morts, dont des enfants et des secouristes. La moitié de la population du pays a été déplacée depuis le début du conflit en 2011, certains tentant de rejoindre l'Europe par la Turquie notamment. Et on vient justement d'apprendre par Amnesty International que la Turquie aurait renvoyé des milliers de Syriens dans leur pays en toute illégalité. Amnesty, qui dénonce une massification des renvois, se dit très inquiète de ces atteintes à la dignité humaine. À Lyon, l'évêché continue de se débattre contre les accusations de pédophilie et va avoir du mal à garder sa réputation. On a appris hier qu'il a relancé une enquête sur un prêtre lyonnais, déjà accusé en 2006, d'agression sexuelle sur une mineure. Classé il y a 10 ans, de nouveaux témoignages sont apparus qui pourraient établir la culpabilité du prêtre en question. 2 jours à peine après la perquisition dans les locaux de l'évêché, cette nouvelle fragilise un peu plus la position du cardinal Barbarin. Les associations de victimes, quant à elles, demandent à l'État d'allonger le délai de prescription, qui est aujourd'hui de 3 ans. On reste à Lyon avec une fuite à l'ENS qui révèle 2 nouveaux projets pour l'école. On vous en a déjà parlé ce matin dans nos 2 journaux, la direction refusant pour l'instant de réagir. Un silence qui en dit peut-être plus long qu'un long discours, mais pour revenir sur les faits eux-mêmes, il s'avère que l'ENS prévoit de nouveaux aménagements, incluant un parcours d'obstacles et l'introduction d'espèces animales menacées dans le jardin. Le but serait en fait d'améliorer la conscience écologique des personnels et des élèves de l'école. Suite à ces révélations, Transistor est parvenu ce matin à contacter les entreprises approchées par la direction pour ces travaux, qui comprendraient non seulement les installations mentionnées, mais aussi de nouveaux aménagements sportifs en plein air. Et en parlant de sport, une étude publiée aujourd'hui révèle que 13% de la population mondiale est atteinte de surpoids, un pourcentage qui pourrait atteindre 20% d'ici 2025 si le rythme de progression actuel se maintient. La part des obèses a triplé chez les hommes et doublé chez les femmes, avec des disparités importantes selon les pays. Par comparaison, le sous-poids lié à la malnutrition reste un fléau majeur en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Alors, merci Céline pour ce flash info. J'ai une information de dernière minute qui vient de me paraître toujours en rapport avec cette fuite ce matin à l'ENS de Lyon. On m'annonce, d'après nos taux chez les entreprises, que ce serait le bâtiment recherche qui serait rasé pour l'installation des nouvelles espèces menacées. La direction ne réagit toujours pas. Plus de détails, je l'espère, pendant la journée. Céline, merci beaucoup pour ce flash info. On te retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Il est un peu plus de 10h, 10h04, 10h05 même. Ils se sont installés en plateau. Ils vont vous parler de blagues, des blagues sur la science. Ça promet. Pauline et Nicolas, Pauline et Nicolas pour Il était une science.
Alors merci Clément.